d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi à la présentation, Yacouba Ouédraogo. Je vous retrouve dans 55 minutes pour un autre bulletin. En attendant, portez-vous bien et on se dit au revoir. À tout de suite.
I have a dream.
It's one small step for man.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, liberty and justice for all.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, un plaisir de vous retrouver sur VOA Afrique. Eric Manirakiza en votre compagnie depuis Washington DC. Lionel Mounamira Gahima assure la mise en onde. Vendredi 19 juin 2020, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution condamnant le racisme systémique et les violences policières. C'était à l'issue d'un débat historique et après le retrait d'une mention ciblant spécifiquement les États-Unis. Cette résolution a été présentée par des pays africains dans le cadre d'une réunion d'urgence convoqué après la mort de George Floyd, asphyxié par un policier blanc lors de son interpellation le 25 mai à Minneapolis et les manifestations monstres organisées contre le racisme dans le monde entier. Dans sa version initiale, la résolution réclamait l'établissement d'une commission d'enquête internationale indépendante pour faire la lumière sur le racisme systémique aux États-Unis. La modification de ce texte a déclenché l'ire des ONG. Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Karine Kanezan-Antulia, directeur plaidoyer Afrique de Human Rights Watch. Bonsoir.
Bonsoir Eric et bonsoir à ceux qui nous écoutent et aux autres invités.
Aïda Sarr, enseignante Montessori, vous êtes dans le Minnesota. Bonsoir.
Bonsoir Eric et bonsoir à tout le monde.
Ismaël Diallo, activiste burkinabé. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous.
Et depuis Paris, Mireille Fanon-Mendes, France, de la Fondation Fanon. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir tout le monde.
Voilà, la résolution adoptée demande à la haut-commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, de préparer un rapport sur le racisme systémique, les violations du droit international en matière de droits de l'homme et les mauvais traitements contre les Africains et les personnes d'origine africaine par les forces de l'ordre. Karine, pourquoi vous n'êtes pas satisfaite?
Je ne dirais pas qu'on n'est pas satisfait. On a plutôt un sentiment d'inachevé pour dire que bon, la lutte pour l'indépendance vraiment du noir est toujours d'actualité. Nous reconnaissons le fait que la résolution qui a été adoptée est un début. On doit remettre dans un contexte assez particulier sur lequel j'espère qu'on va revenir. Mais évidemment, le fait qu'il y ait eu un retrait, qu'il n'y ait pas eu justement l'adoption du premier texte qui faisait référence, justement l'avant-projet qui faisait référence à la mise en place d'une commission d'enquête impartiale, est dommage, est un fait que nous regrettons.
Médès ?
Moi, je serais beaucoup plus radicale que Karine, car en fait, si les pays africains ont effectivement accepté de rédiger cette résolution demandant une commission d'enquête, ils ont néanmoins accepté de se laisser gouverner, entre guillemets, je le mets bien entre guillemets, par d'autres pays qui ont fait pression sur eux pour que cette commission d'enquête ne soit pas là et surtout que les États-Unis ne soient pas nommés dans cette résolution. Donc, il faut savoir à un moment donné, et là, l'ONU, ça concerne absolument la responsabilité de l'ONU et ça montre tout le paradoxe du système multilatéral qui n'en est malheureusement plus un maintenant. Ça montre justement tout ce paradoxe et cette difficulté pour cette communauté internationale à affirmer des choses, à affirmer de lutter contre le racisme sous toutes ses formes, que les afrodescendants sont dans une situation particulière, que la mise en esclavage, le colonialisme ont laissé des séquelles visibles encore maintenant, qu'ils sont tous concernés et qu'ils demeurent saisis de cette question, mais ça n'est pas nouveau. C'est la quatrième décennie avec la décennie internationale pour les afrodescendants qui a commencé en 2015 et qui se finit en 2025. C'est la quatrième décennie contre le racisme. Je me rappelle parfaitement de du discours introductif de Madeleine Robinson à Durban en disant « nous avons failli ». Eh bien, nous avons failli, nous n'avons pas réussi à combattre le racisme, à faire en sorte qu'il ne soit plus là. Eh bien, c'est une fois de plus une faillite du système. Et le problème, c'est que cette commission d'enquête, bien sûr, c'est important, parce qu'il faut une justice et les Black Lives Matter, enfin, tout à fait raison de préciser, sans justice, pas de paix. Mais par ailleurs, ça n'est absolument pas suffisant. Ce qu'il faut à l'heure actuelle, et c'est l'ONU qui devrait être à la tête de cette problématique à l'heure actuelle, c'est de changer le paradigme de la domination qui s'est construit sur une ligne raciale depuis 400 ans. Donc c'est ça dont l'ONU devrait s'occuper. Une commission d'enquête, je vous l'avais dit la dernière fois, une commission d'enquête certes, mais en même temps il y a déjà eu deux rapports de l'ONU sur du groupe de travail sur les afrodescendants sur les États-Unis et tous sont arrivés au même résultat, aux mêmes conclusions. Donc c'est même pas la commission d'enquête qui va changer les paradigmes racialisants qui dominent le monde parce que c'est un monde capitaliste et ce monde et le capitalisme s'est construit sur la marchandisation de nos ancêtres africains. Donc c'est ça qui est en jeu.
Le groupe des pays africains au sein du Conseil des droits de l'homme a fait de nombreuses concessions pour garantir le consensus autour du texte. C'est ce qu'a reconnu le représentant du Burkina Faso au nom de ses États avant son adoption. Il fallait peut-être avancer. Est-ce que vous regrettez ces concessions?
Je ne m'énorgueillis pas en tant que Burkinabé que ce soit le représentant de mon pays qui était porteur de ce projet de résolution dénué de toute sa portée. Et d'ailleurs, il faudrait noter que c'est contraint et forcé que le comité s'est saisi de cette affaire, parce que la rue s'en est saisie, parce que le monde s'en est saisi. Et il ne faudrait pas se faire d'illusions. Cela n'aura d'effet que si la rue continue de garder le momentum de cette affaire. Sinon, ben, tout sera classé très bientôt dans les oubliettes. Parce qu'il y a un consensus mondial aujourd'hui, un non-dit, mais un consensus, qui est qu'il faut maintenir le peuple noir au bas de l'échelle du monde. On ne le reconnaîtra pas, bien entendu, mais c'est comme prouve le contraire.
Vous pensez que la modification apportée à ce texte change quelque chose de très important?
Oui, le texte a été dénué de toute sa valeur. Maintenant, il fallait simplement sortir un document et ça a été fait. Mais encore une fois, cela a été fait sous les exigences de la délégation américaine.
Qui ne fait plus partie d'ailleurs du système olivien.
Hein. Oui, exactement. Il n'avait rien à faire là-bas.
Karine, vous voulez dire quelque chose?
En fait, la réflexion doit aussi se porter au niveau de l'Union africaine. C'est ce que j'allais dire. Autant nous parlons des Nations Unies, autant nous devons nous rappeler que quelques jours avant que cette résolution ne soit introduite, le président de la Commission africaine, le 29 mai, a sorti un communiqué rappelant la résolution historique de l'Organisation de l'Unité africaine en 1964. Et pour moi, cela est très important parce que, justement, c'est là où se trouve en fait la défaite du groupe africain. Lorsqu'on sait qu'à cette conférence, et c'est assez important, un des leaders justement emblématiques de la lutte pour les droits et la dignité des Afro-Américains, Malcolm X, avait fait un plaidoyer poignant, exigeant la même chose, exigeant une enquête demandant justement la solidarité des États africains pour qu'il y ait une enquête sur la situation des droits de l'homme, sous l'égide de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Donc, pour nous, en fait, la problématique se retrouve vraiment au sein de la détermination de ce groupe africain qui est composé d'États membres de l'Union africaine, une union fondée sur une ambition panafricaine de libération des Noirs qui a été forgée et inspirée par la pensée panafricaine des Afro-Américains. Et je pense au-delà de ce qu'on peut dire une défaite. Moi, a priori, nous savions au sein de Human Rights Watch que nous courions même le risque de ne pas avoir de résolution. Ben oui, parce que 24 heures après que le débat avait été introduit, nous avions déjà des informations comme quoi on avait des États, autant africains qu'européens, qui commençaient justement à tirer la corde vers autre chose. Hein. Et la possibilité qu'il n'y ait pas de résolution a été grandissait de jour, d'heure en heure, en fait. Voilà. Donc c'est...
Ouais. Oui, Madame Aïda. Aïda.
Oui, oui.
Oui, vous avez entendu les réactions de nos invités. Vous n'avez pas, vous avez eu cette discussion dans un autre cadre. Quelle a été l'appréciation?
Alors, je dirais que je suis entièrement d'accord avec les premiers participants. Et dans notre école, en fait, je suis enseignante, dans notre école, on n'arrête pas de parler de ce problème de racisme et autres. Et je trouve qu'en fait, il n'y a que les mots, en fait. Il est très clair que c'est une chose qui sévit dans les établissements scolaires américains. Je ne suis pas très sûre en Europe, mais ça, c'est certain. On le voit. Et beaucoup des enseignants ne se rendent pas compte de la façon dont ils traitent, en fait, les enfants de couleur, par exemple. C'est de ça qu'on parlait, pas plus tard qu'hier, en fait. Une réunion de plus de 4 heures de temps d'affilée. Alors, il y a tellement de choses qui doivent se faire, en fait, disons, sur le plan éducationnel. Et je pense aussi que, il y a un côté aussi économique qui fait que, comme disaient, en fait, les premiers participants, qui fait qu'en fait, l'homme de couleur, en fait, l'Africain ou l'Afro-Américain doit être sous le joug, disons, de l'Occidental. Et vous regardez ce qui se passe avec les prisons, par exemple, et les choses qu'on apprend, qu'on enseigne aux enfants dans le milieu scolaire, c'est vraiment affreux de voir tout ça. Alors, je pense que il y a tellement de choses qui doivent se faire sur ce plan-là et sensibiliser les populations. Et cette sensibilisation ne va s'opérer que quand, en fait, disons, les mentalités ont été touchées. Et ça commence, disons, par les plus jeunes, je dirais par les plus tout petits. Les enfants, en fait, moins de 5 ans d'ailleurs, qui exhibent, disons, des caractères racistes quelquefois par rapport aux autres enfants ou bien par rapport aux enseignants de couleur. Alors, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans le système, quoi, dans les populations. Ici.
Donc, au-delà des réformes au niveau de la police, il faut toucher le système éducatif.
Éducatif, complètement, complètement. Ah oui, oui. Alors, ce sont ces enfants-là qu'on est en train de voir, disons, et d'ailleurs, des étudiants qu'on est en train de voir sur les rues de Minneapolis en ce moment, ou bien de tout Minnesota, disons. Alors, ce sont eux qui sont dans les rues à manifester, disons.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Toujours l'Amérique. Nous discutons des enjeux de la résolution condamnant le racisme systémique et les violences policières. Eric Manelakiza est à la présentation. La résolution adoptée à Genève précise que le rapport devrait en particulier examiner les événements ayant provoqué la mort de George Floyd et d'autres Africains et personnes d'origine africaine dans le but de contribuer à établir les responsabilités et faire justice aux victimes. Madame Mireille, n'est-ce pas un point important de cette résolution?
Écoutez, pour moi, non. Franchement, je trouve les circonstances de la mort de George Floyd comme celles de d'autres personnes qui ont été assassinées par la police, la plupart du temps, on les connaît. Donc bon, c'est pas tant ça. Moi, franchement, je pense que on n'a pas répondu à l'attente de la rue, ni d'ailleurs de la famille de George Floyd. Il faut faire un rapport, mais un rapport, une commission d'enquête. Un rapport, ce n'est pas une commission d'enquête. Il faut voir comment fonctionne la police, et il faut aller plus loin que ça. Il faut voir comment fonctionne le système. Pourquoi le système? D'où vient ce système racialisant aux États-Unis? Il est aussi présent dans d'autres pays, entre autres en France. D'où vient-il? Si on n'analyse pas ça au regard de notre histoire, de cette histoire que tout le monde refuse, mais enfin, il y a quand même la suspicion de deux personnes dans l'État de Californie qui ont été retrouvées pendues à des arbres. Il y a des suspicions sur le fait que ce soit possiblement des personnes du clan, du Ku Klux Klan. Donc, je crois quand même qu'il faut prendre les choses où elles sont. Il y a des racistes, il y a un État raciste qui émet un certain nombre de lois racistes, ce qui permet aux gens de continuer à être raciste. Donc c'est ça, c'est à ça qu'il faut s'atteler. C'est pas un rapport, ce rapport, mais c'est même une insulte à la mémoire de tous ceux qui ont été assassinés par les violences policières. C'est une insulte, parce que ce n'est pas ça qu'on cherche. Nous, on cherche à changer un système qui produit du racisme. Bien sûr que la justice doit être là, mais ce n'est en rien suffisant. Enfin, écoutez, depuis la lutte pour les droits civils, depuis la fin des abolitions, depuis les mobilisations contre le ségrégationnisme, etc., on en est toujours au même point. Et dans la mesure où le système capitaliste est en difficulté, cette crispation sur la racialisation augmente et sont de plus en plus visibles. Il y a ça aussi. Alors bien sûr, il y a eu l'effet confinement et je pense que le confinement et le fait qu'on découvre tout d'un coup que les personnes les plus victimes du coronavirus sont les afro-descendants, ça interroge. Mais tout ça ne vient pas de n'importe où. Tout ça vient du fait que depuis des siècles, les corps noirs ne comptent pas et sont traités de manière coloniale. Donc c'est ça qu'il faut travailler. Et c'est en ça qu'il est regrettable et qu'il est même grave. Pour moi, c'est extrêmement grave que les pays africains aient accepté de subir les pressions de leurs anciens colonisateurs. Il y a des tas de rapports qui ont été faits sur les violences policières, comme en France d'ailleurs. Il y a des tas de rapports qui sont faits. Ce n'est pas les rapports qui vont changer le rapport de domination de la white supremacy. Ce n'est pas ces rapports-là, ni de penser qu'ils ont raison de faire ça, parce qu'ils ancrent leur certitude dans la modernité, dans cette modernité qui vient du siècle des Lumières et qui pense qu'il n'y a pas d'autre façon de penser le monde que celui vu à travers les yeux des Blancs. Mais c'est ça le problème face auquel on est. Si on veut être sérieux, c'est ça qu'il faut démonter. C'est ça qu'il faut déconstruire. C'est ça où il faut mettre les yeux, il faut mettre les gens devant cet état de fait. Ce n'est pas un rapport qui va changer ce rapport de domination.
Monsieur Diallo, on n'a pas eu la résolution initiale qui était attendue. Quelle devrait être la prochaine étape, selon vous ?
Écoutez, moi, je m'inscris en dehors de toute cette architecture que je trouve un exercice totalement inutile. Je vous assure que tout ce qui se fait dans ces réunions-là, c'est du temps de perdu. Fondamentalement, les choses doivent changer dans les familles d'abord. C'est aux parents, à chaque parent, de dire à son enfant noir, tu n'es inférieur à personne. Tu es aussi bien, aussi bon, aussi intelligent que n'importe quel autre être humain, n'importe où à travers le monde. Ça, c'est la première des choses. Décomplexer le noir et regarder l'autre en face dorénavant et ne laisser passer aucun geste, aucune parole, aucun comportement discriminatoire ou raciste de qui que ce soit, où que ce soit et quel que soit le moment. C'est par là que ça doit recommencer. Mais tout le reste, ce sont des épiphénomènes qui ne changent pas fondamentalement les choses. Quand on dit de changer, on dit de revoir la réformer la police aux États-Unis. Ce n'est pas la police qu'il faut seulement réformer. Et la justice, et le système judiciaire, et le système économique. Bref, c'est toute la société qui est fondée, qui est basée, qui a un substrat raciste. C'est par là que ça commence. Encore une fois, il y a un consensus mondial de tous ceux qui ne sont pas noirs pour maintenir le noir au bas de l'échelle sociale. Ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, je demande humblement à ce qu'on me convainque que j'ai tort.
Mais au niveau du continent africain, quand on voit ce qui se
passe, l'Afrique a totalement échoué de ce côté. Le discours de Malcolm X en 1964 au sommet de l'OIA a bien dit, c'est à vous l'Afrique de prendre les devants de cette lutte de réhabilitation, oui, de rédemption de l'homme noir. Si vous ne le faites pas, tous les autres descendants qui sont ailleurs continueront d'être opprimés, d'être discriminés. Mais l'Afrique n'a pas su, l'Afrique n'a pas voulu. Parce que l'Afrique elle-même a voulu oublier tout ce qu'elle a subi.
Karine, l'Afrique a oublié tout ce qu'elle a subi selon M. Diallo, mais c'est d'abord depuis les pays. Parce que dans les pays, les choses, c'est pire.
L'Afrique a oublié, je ne sais pas si l'Afrique a oublié, mais l'Afrique recrée. ces cycles de violence. Mm-hmm. Vous voyez, c'est ça. En fait, lorsque, Eric, tu viens de parler des États, mais regardons la gouvernance africaine au sein de l'Afrique. Et je pense qu'une fois, lorsqu'on voit ce que le colonialisme, ce que l'apartheid, ce que l'esclavage ont produit, on parle de décomplexer l'Africain, mais l'Africain, avant, pour qu'il se décomplexe, il doit s'aimer d'abord. On doit se respecter d'abord. Et là, c'est le premier problème. On parle de la brutalité policière. Mais je ne sais pas, lorsque je parle à mes collègues sur le continent, ils te disent, oui, c'est très bien, mais ces leaders qui vont débattre de cette résolution, est-ce qu'ils débattent avec eux-mêmes? Est-ce qu'ils débattent avec leurs ministres de la Défense? Est-ce qu'ils débattent avec leurs milices? C'est très complexe, mais en même temps, j'ose dire, dans la mesure où la souffrance de l'homme noir est une souffrance que nous portons, que le monde porte sur sa conscience, je pense que la mort et le tollé, en fait, on a parlé de la rue qui a suivi et qui s'est approprié justement cette injustice pour réclamer justice, et qui continue, parce qu'on a jusqu'à maintenant cette discussion continue, ce débat est un débat qui continue, et c'est une chose à laquelle nous devons prêter attention et sur laquelle nous devons travailler. Et je finirai en disant qu'en fait, il faut essayer autant que faire se peut. Je sais que mon frère Diallo a parlé de l'importance justement de plutôt se focaliser dans les familles, dans l'individu, et je suis tout à fait d'accord. Mais si on revient sur cette question justement de ces débats au niveau des Nations Unies, de l'Union africaine, moi je travaille particulièrement avec justement nos sociétés africaines et l'Union africaine, c'est de nous donner les moyens d'agir. Je faisais des recherches un petit peu il y a quelques années sur les différents groupes d'experts, et je me suis rendu compte, par exemple, que nous avons un groupe de travail d'experts sur les personnes d'ascendance africaine au niveau des Nations Unies, mais on n'a pas son corollaire.
Madame Haïdar, au sein de votre établissement, comment vous envisagez la suite? Vous avez constaté qu'il y a un problème. Maintenant, comment vous allez régler tous ces problèmes?
Eh bien, je ne vais pas trop dire sur ça. Simplement, en fait, parce que l'intervenant vient juste de dire, ce sont des choses assez simples. Très, très simple. Je ne veux pas vraiment minimiser le problème, mais il faut relâcher un peu le pouvoir. En fait, la puissance que les Blancs se donnent dans quelques secteurs que ce soit, il faudrait qu'ils soient vraiment, disons, tenus à relâcher un peu cela pour, en fait, donner une chance aux autres qui sont compétents, aussi compétents et quelquefois plus compétents qu'eux. C'est aussi simple que ça.
D'ailleurs, les chiffres au niveau fédéral, ici aux États-Unis, montre que les Afro-Américains sont les plus éduqués que les Américains blancs. Si vous regardez aussi dans d'autres secteurs, les immigrants américains, ils sont bien placés.
Malheureusement, c'est une lutte, ça ne se donne pas, ça se prend.
C'est le côté économique, en fait, qui fait qu'ils veulent toujours, en fait, tenir le noir à
soi. Oui, exactement.
Ils ont parlé de l'esclavage.
Le mot suprématie veut tout dire. Il veut tout dire.
Juste intervenir sur un point qui me semble essentiel. Il a été dit que c'était une question d'individus, de famille, etc. Non. C'est une question internationale et qui nous concerne tous, qui concerne les États, les peuples, parce que tant que nous aurons ce racisme structurel et systémique qui atteint, parce que ce n'est pas seulement aux États-Unis, c'est en Colombie, au Brésil, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et ailleurs encore, partout, qu'il y a du racisme systémique qui s'exprime de façon ou d'autre. Tant que nous ne prendrons pas cette question de manière politique, car c'est une question politique et ce n'est pas une question morale ou une question de compassion.
Mais madame, ça ne va pas commencer par le sommet. Ça ne va pas commencer par le sommet. Le sommet est le garant de ce système. Ce n'est pas lui qui va changer. Le sommet est le garant de ce système. Ce n'est pas lui qui va se saborder.
C'est notre travail d'obliger le sommet à changer, à prendre conscience qu'il produit lui-même, et y compris en Afrique, qui l'aide à produire ce racisme systémique. C'est notre
travail. C'est la famille et la rue qui va forcer le sommet. Ce n'est pas le sommet qui va vouloir.
Ça n'empêche pas les autres de travailler sur les questions d'éducation, etc. Mais ça n'est pas suffisant. Ce n'est pas ça qui va changer le fait que certains s'arrogent le droit de penser que le corps des Noirs ne compte pas, que ce sont des zones, qu'ils habitent dans des zones de non-être. Ce n'est pas ça qui va changer.
Nous arrivons au terme de cette émission de l'Amérique et vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Karine Kadeza-Nantulia, directeur plaidoyer Afrique de Human Rights Watch, merci.
Merci beaucoup, Eric, de m'avoir invité. Et merci Aïda. À nos auditeurs.
Aïda Assar, vous êtes enseignante Montessori dans le Minnesota. Merci pour
merci
votre contribution.
Merci, c'est pour mon plaisir.
Ismaël Diallo, vous êtes activiste burkinabé. Merci.
Merci.
Mireille Fanon, Mendes France, merci beaucoup.